Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2 heures d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. Et l'info comme tous les jours avec Amandine, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, la croissance qui dépasse les prévisions, plus 3% au troisième trimestre, c'est un record. Yannick Jadot qui veut interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Et puis on vous emmènera à Tahiti, où vit la gagnante du jackpot de l'euro-million, 220 millions d'euros. Son rêve, voilà. La neige.
C'est vrai que j'ai entendu ça dans la matinale ce matin, c'est magnifique. La COP26, on en parle à 12h40. La conférence sur le climat, elle s'ouvre lundi à Glasgow, mais est-ce vraiment utile? Faut-il en attendre quelque chose? Et puis à 12h50, Halloween, c'est dimanche.
Eh ben oui, justement, c'est notre question du jour sur RTL.fr. Allez-vous fêter Halloween? Vous allez fêter, Pascal?
Non.
Bon, comme 93% des personnes qui ont répondu à cette question du jour sur RTL.fr.
On fait bien d'en parler, finalement. Ça va passionner les gens.
La météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Trois départements en alerte orange.
Oui, la Lozère, l'Ardèche et le Gard. On va avoir ce qu'on appelle un épisode cévenol au cours du week-end. Alors, pour l'instant, il n'y a pas trop de pluie, mais nous avons deux systèmes. Un premier qui est arrivé par l'ouest et ça donne des pluies entre le Pays Basque et le nord du pays actuellement. Et un autre en Méditerranée. Et c'est au moment où ces deux systèmes vont se rejoindre, donc à partir de la nuit prochaine, qu'on devrait avoir des pluies soutenues dans les Cévennes. Et c'est surtout le cumul des pluies, puisqu'après, ça ne va pas s'arrêter jusqu'à dimanche soir pour les autres. Donc, on essuie un passage pluvieux. Mais à l'arrière, déjà, la pointe bretonne récupère un petit peu de soleil cet après-midi.
Tout arrive.
Et puis à l'est, il fera quand même encore assez beau. Les températures cet après-midi, 15 à Cherbourg, à Lille et Orléans, 16 à Paris, 17 à Strasbourg, 19 pour Grenoble, 20 degrés à Auch et 21 à Ajaccio.
Merci beaucoup, Valérie. À tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord, donc, ces très bons chiffres de la croissance, plus 3% au troisième trimestre, c'est bien au-delà des prévisions, c'est même du jamais vu depuis un demi-siècle, Marie Guerrier.
Oui, un chiffre au-delà de nos espérances, dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il parle de résultats exceptionnels. La croissance est portée par la consommation des ménages, plus 5% au troisième trimestre. Et quand on regarde dans le détail, on voit que les secteurs des loisirs et du tourisme servent de locomotive, plus 58,9% de dépenses en hébergement et restauration entre juillet et septembre, et c'est plus 42,8% pour les transports. Donc bien sûr, la production de toutes les entreprises de ces secteurs est en forte hausse. L'hôtellerie-restauration contribue pour moitié à la croissance du PIB, de la production de richesses, au troisième trimestre. Les exportations françaises accélèrent, les importations sont quasi stables, la balance est positive. Alors il y a une exception à tous ces feux au vert, c'est la production de biens de consommation, notamment manufacturiers, moins 6%, à cause des diverses pénuries de matériaux qui font aussi flamber les prix et grimper l'inflation.
Des chiffres qu'il faut prendre avec précaution, c'est ce que nous dit l'économiste Marc Toiti, que vous avez pu joindre, Marie. Pour lui, il ne s'agit là que d'une croissance de rattrapage. Écoutez.
Encore heureux qu'on ait des bons chiffres de croissance, vu toutes les sommes qu'on a dépensées, que l'État a dépensées, 450 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique. Hein. Mais maintenant, il faut payer la facture. L'économie française a mangé son pain blanc d'un point de vue de la croissance. Déjà, les taux d'intérêt augmentent à cause d'une dette publique qui flambe. Et parallèlement, l'inflation également augmente. Plus l'inflation augmente, plus ceci casse l'activité économique, casse la consommation en grevant le pouvoir d'achat, ce qui va mécaniquement freiner l'activité économique. Donc, il ne faut pas trop crier victoire trop vite. La croissance française va rebaisser vers des niveaux plus normaux, entre guillemets, entre 1,5 et 2% pour 2022.
Ne crions pas trop victoire trop vite, nous dit Marc Toiti. Merci à vous. Marie Guerrier.
Dans l'actualité également, le tollé des chasseurs après la proposition de Yannick Jadot.
Le candidat écologiste à la présidentielle veut leur interdire de sortir pendant le week-end et les vacances scolaires. Nicolas Rivet est le directeur général de la Fédération nationale des chasseurs.
Ça me semble complètement électoraliste. L'interdiction de la chasse le week-end, c'est une vieille lubie qu'on entend régulièrement, mais qui pose un certain nombre de problèmes. La chasse est un loisir, donc les chasseurs travaillant le reste de la semaine, ils ont plutôt l'habitude de pratiquer le week-end. Ça veut dire qu'on remet en cause le loisir de plus d'un million de Français. La vraie question, en fait, c'est le partage de la nature. C'est pas l'interdiction de la chasse. Et on a déjà engagé, nous, des dialogues avec la Fédération française de randonnée, le cyclotourisme, cette société de l'interdit où on veut réglementer les pratiques de tout le monde et plutôt les interdire, d'ailleurs, parce qu'on les comprend pas ou qu'on n'a pas été les pratiquer ou les voir. C'est quand même inquiétant.
Nicolas Rivet, le directeur général de la Fédération nationale des chasseurs, au micro RTL de Sophie Jousselin.
Et les chasseurs sont attendus au 32-10.
Ce drame dans le Val d'Oise, un bébé de 13 mois entre la vie et la mort, victime de violences familiales. familiale à Goussainville. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
C'est sa mère qui a prévenu la police.
Oui, un appel de détresse à police secours quand l'équipage arrive au domicile du couple après l'épisode violent. Le SAMU et les pompiers sont déjà sur les lieux. Un bébé de 13 mois est dans un état grave. Polytraumatisé, il aurait reçu de multiples coups. Il est transporté à l'hôpital Necker et plongé dans un coma profond. La maman est quant à elle légèrement blessée. L'auteur présumé, le conjoint violent, a quitté le domicile peu après les faits, mais il a été interpellé en fin d'après-midi en gare de Goussainville grâce à la géolocalisation de son téléphone. La femme victime aurait déposé une première plainte contre son compagnon, un homme de 24 ans, fin août, selon une source proche du dossier. Elle souffrait alors d'ecchymoses au visage et sur le corps, mais elle était revenue sur ses déclarations et avait retiré cette plainte.
Du service police-justice de RTL. Il avait été sommé de venir témoigner au procès des sondages de l'Élysée. Nicolas Sarkozy sera bien présent mardi au tribunal. L'ex-président a informé la cour et a prévenu qu'il était inutile de faire appel à la force publique. Et puis Emmanuel Macron, lui, est aujourd'hui à Rome, à la veille du début du sommet du G20. Le chef de l'État doit rencontrer cet après-midi Joe Biden, premier tête-à-tête avec le président américain depuis la crise des sous-marins australiens. Joe Biden, qui rencontre en ce moment même le pape François.
C'est une solution que beaucoup choisissent pour arrêter de fumer, la cigarette électronique.
Et figurez-vous qu'elle sera peut-être un jour prescrite par votre médecin. Ce sera en tout cas bientôt possible en Angleterre, Agathe Landais.
Oui, car le gouvernement britannique permet désormais aux fabricants de cigarettes électroniques de soumettre leurs produits à l'agence anglaise du médicament. Ils seront soumis à des tests de sûreté très rigoureux et s'ils sont approuvés, les Anglais pourront se les faire prescrire par un médecin. On n'en est pas du tout là chez nous. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour dans l'Union européenne, ce que regrette le professeur Bertrand Dotzenberg, tabacologue.
Moi, j'ai toujours été favorable à ce qu'on puisse prescrire la cigarette électronique et qu'elle soit en pharmacie. Et beaucoup de mes collègues la donnent aux personnes en difficulté qui viennent pour arrêter de fumer. La cigarette électronique apporte de façon fiable et sympathique, agréable, confortable la nicotine pour les patients en phase d'arrêt. Donc, c'est plutôt positif.
C'est ce que disent aussi les études. Selon l'Institut Pasteur, la fumée générée par les e-cigarettes contient moins d'1% des produits toxiques de la cigarette, notamment le tabac, le goudron, ou le monoxyde de carbone. Et selon l'agence de santé publique anglaise, la cigarette électronique serait 95% moins nocif que le tabac.
Précision signée Agathe Landais et on rappelle que débute le 1er novembre, le mois sans tabac, donc dès la semaine prochaine. À quelques jours de la Toussaint, l'association UFC Que Choisir dénonce les frais bancaires de succession, ces frais appliqués pour clôturer le compte d'un défunt. L'addition a bondi en quelques années, plus 28% depuis 2012.
Alors il y a évidemment, dans la mesure où c'est une tarification qui est largement méconnue, voire ignorée des consommateurs, et bien des écarts tarifaires qui sont particulièrement importants. 120 € au Crédit Mutuel Centre-Est Europe et jusqu'à 527 € à la LCL. Donc 233 € en moyenne qui sont en réalité bien ponctionnés à l'héritage des consommateurs puisque ce sont des fonds qui sont pris sur les comptes bancaires des consommateurs qui sont décédés. Et d'autant plus important et presque scandaleux quand on compare ces tarifs à ce qui se passe à l'étranger. C'est deux fois plus cher qu'en Belgique, trois fois plus cher qu'en Italie, et même ces opérations-là, elles sont même gratuites en Allemagne.
Mathieu Robin de l'association UFC Que Choisir, joint pour RTL par Pierre Herbulot. Et puis RTL vous le révélait ce matin, le gagnant du super jackpot de l'Euromillion est une gagnante, une jeune femme d'une trentaine d'années qui vit à Tahiti. Alors son nom, bien sûr, n'a pas été révélé, mais sur place, tout le monde se demande de qui il s'agit, Laure Philibert.
Dans les rues de Papeete, l'euphorie se lit sur les visages. Si le jeu est ancré dans les habitudes, la jeune multimillionnaire, elle, jouait pour la première fois.
J'en reviens pas. Je lui souhaite de vivre à fond.
C'est un coup de chance. Hein. Si elle a gagné, là, tout le monde est chez elle, là, dehors, là, en train d'attendre le parc.
220 millions d'euros. C'est donc la somme remportée par cette Tahitienne, issue d'une famille modeste et qui compte bien continuer à rester simple. Transposé en francs pacifiques, la monnaie locale, le pactole, s'élève à 26 milliards.
Millions, c'est quand même quelque chose. Milliards, tu vas perdre la tête avec.
Je lui souhaite de réaliser déjà ses rêves et peut-être ceux des personnes qui sont dans le besoin.
Autre record pour la Polynésie française, elle détient la proportion de gagnants à l'Euromillion la plus importante par habitant. Tahiti, un paradis sur terre, c'est en tout cas le sentiment de nombreux Polynésiens.
Ce vendredi, plus de chances de gagner à Tahiti qu'ailleurs, vous savez ce qu'il nous reste à faire, Pascal ?
Mais nous allons partir, mais c'est la première fois, paraît-il, qu'elle jouait et oui. Elle a joué au flash. Hein, c'était pas des numéros fétiches.
Chance du débutant, on pourrait dire aussi.
Exactement. Ce soir, il y a un euro-million si vous souhaitez, mais ça doit être plus faible,
je pense.
Ah bah
oui, c'est l'euro-million d'Halloween.
La cagnotte. Deux sujets à venir, la COP26, la conférence sur le climat, elle s'ouvre donc lundi à Glasgow. Est-ce vraiment utile? Oui. Faut-il en attendre quelque chose? Espérons. Et à 12h50, Halloween, c'est dimanche. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Qu'est-ce qui est écrit ici?
Ces crises environnementales, économiques, humanitaires, sanitaires qui frappent en ce moment la planète constituent peut-être aussi un moment avec des opportunités à saisir que nous ne devons pas gaspiller. La leçon la plus importante que nous puissions tirer de ces crises est notre besoin de construire ensemble afin qu'il n'y ait plus de frontières, de barrières ou de murs politiques derrière lesquels nous cacher.
Ces mots, ce sont ceux du pape François à 3 jours de l'ouverture de la COP26. Le souverain pontife appelle les dirigeants du monde entier à trouver d'urgence des réponses rapides au changement climatique. Mais est-ce vraiment possible? Peut-on attendre quelque chose de cette nouvelle conférence sur le climat? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Clément Sénéchal.
Bonjour.
Et vous êtes porte-parole climat de l'ONG Greenpeace. Alors cette COP26, elle va, on le rappelle, se dérouler à Glasgow, sans la Russie ni la Chine, qui sont 2 des 4 plus gros émetteurs de CO2 de la planète. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça sans eux?
Oui, ça sert quand même à quelque chose. Il y aura leurs délégations seront présentes, elles vont négocier. Le président chinois ne sera pas là, mais il a fait quand même quelques annonces récemment. Je rappelle qu'Emmanuel Macron lui-même n'est pas venu n'a pas fait le déplacement lors des dernières COP. Voilà, donc les COP, ça sert quand même à mettre le climat à l'agenda. Ça permet de maintenir une discussion internationale qui est indispensable pour faire face à un enjeu qui est global dans ses causes, dans sa structure et dans ses conséquences. Ça permet aussi aux représentants des pays les plus pauvres et les plus vulnérables de rencontrer d'égal à égal les représentants des pays les plus riches et qui sont les premiers responsables de leurs difficultés, puisque ce sont les plus gros émetteurs. Ça permet aussi d'apporter un traitement de ces enjeux majeurs par le canal diplomatique. On parle d'enjeux géopolitiques dont la gravité va se développer dans les années qui viennent. On parle de migration massive, on parle d'accès à des ressources naturelles qui vont s'épuiser. Et puis ça permet aussi aux différentes communautés climatiques de la société civile mondiale non seulement de venir au contact des dirigeants, mais de se rencontrer, de s'inspirer les uns les autres et de faire fond commun. Par contre, effectivement, il est illusoire de croire qu'une conférence de 2 semaines tous les ans où les chefs d'État passent de temps en temps une tête va régler un problème aussi général. La ligne de front, elle passe par les COP, certes, mais avant tout par les États, par les gouvernements, par les parlements, par les acteurs économiques, les populations, par les urnes et de plus en plus par les tribunaux.
L'objectif, pardon, c'est de trouver les moyens de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est ça?
Absolument.
Concrètement, comment on fait? Il faudrait réduire de 45% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est tout proche, 2030.
Absolument, il faut agir, vite. Alors l'ONU dit même maintenant qu'il faut les réduire de moins 55% d'ici à 2030. Si on regarde les nouveaux engagements qui ont été mis sur la table, déjà ils sont incomplets puisque 67% seulement des pays ont produit de nouvelles feuilles de route.
Mais comment on fait ?
Quelles sont les mesures en fait les plus concrètes, les plus essentielles selon vous à prendre? Parce que la difficulté de ces discussions, c'est d'apporter des réponses concrètes.
Alors un premier enjeu, c'est déjà de donner vie à l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir finaliser ce qu'on appelle les règles d'application. Et donc, ça veut dire dégager un consensus sur l'interprétation qu'on fait des différents articles.
C'est-à-dire quelles mesures concrètes? J'imagine les gens qui nous écoutent et qui disent, voilà, on doit batailler pour que la planète aille mieux. Qu'est-ce que je dois faire? Ne plus rouler en voiture? Ne plus utiliser mon électricité? Ne plus manger de viande? Qu'est-ce que je dois faire?
Bon, au niveau des gens, ça veut dire économiser l'énergie le plus possible, ça veut dire se nourrir de plus de repas végétariens, ça veut dire avoir des fournisseurs d'électricité qui soient plus propres, ça veut dire utiliser les transports collectifs beaucoup plus que la voiture individuelle ou que
Mais ça va pas nous permettre d'arriver à moins 55%.
Et c'est surtout pas très rigolo, si vous me permettez, le programme que vous proposez. Les gens qui nous écoutent, ils ont peut-être envie de continuer de manger de la viande, continuer d'avoir leur voiture personnelle. Ils peuvent vivre cela comme une limitation de leur liberté.
Et les gens qui voient leur maison détruite par les épisodes Cévenol et les inondations à répétition causées par le réchauffement climatique, vous pensez qu'ils trouvent ça rigolo ?
Écoutez, je me fais le porte-parole de ceux qui nous écoutent, à qui vous dites aujourd'hui, il faut que vous preniez les voitures, faut que vous preniez les transports collectifs.
Bah oui, mais c'est pour ça qu'il faut un accompagnement de la puissance publique. Ça veut dire que la puissance publique doit investir dans les mobilités douces et les mobilités collectives. Grosso modo, il faut développer les secteurs de la transition. Ça veut dire accompagner les ménages dans la rénovation de leur logement. Ça veut dire développer les énergies renouvelables. Ça veut dire multiplier les offres de repas végétariens à la cantine. Mais bien sûr, après, c'est à la puissance publique d'agir. Et là où il y a un problème et il y a une hypocrisie, c'est quand les responsables politiques se dispensent et mettre la charge du changement sur les épaules des ménages, et notamment des ménages les plus modestes.
Clémence, par exemple, pardonnez-moi, Clémence Sénéchal, je voulais juste qu'on s'arrête sur une proposition assez concrète pour le coup de Greenpeace, qui recommande tout simplement de supprimer certaines lignes aériennes européennes les plus fréquentées, dès lors qu'il existe une alternative par le train de moins de 6 heures. Ça permettrait, dit votre association, d'économiser 3,5 millions de tonnes de CO2 par an. Alors, ça représente quoi, 3,5 millions de tonnes ?
Bah, ça représente une partie importante de l'empreinte carbone de l'Union européenne, en tout cas non négligeable. La problématique aujourd'hui, c'est que ce transport aérien, il est extrêmement carboné en comparaison des autres types de mobilité qui sont disponibles. Aujourd'hui, pour faire face au réchauffement climatique, il faut décarboner l'économie. Voilà, tous les pays se sont engagés sur cet objectif.
Mais si on fait ça, donc, c'est quoi ? C'est 10%, donné, 30%, 40% de nos émissions de gaz à effet de serre, juste pour que les gens se rendent compte ?
Au niveau européen, c'est autour de 5%, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est comment, à un moment donné, on change nos pratiques sociales et on fait décroître les secteurs qui sont extrêmement carbonés et pour lesquels on a des alternatives.
C'est un programme de décroissance que vous proposez, donc c'est aussi un programme politique.
Mais le changement climatique, c'est une question politique, évidemment. Ça concerne la manière dont on s'organise collectivement et dont la manière dont on structure notre économie. Et c'est un problème de décroissance de la consommation énergétique. Je vous rappelle que c'est un objectif européen sur laquelle la France est engagée, sur laquelle la France est comptable. C'est un objectif officiel, donc c'est même plus un objectif polémique aujourd'hui. Ça fait partie des règlements européens.
Merci Monsieur Sénéchal, vous êtes le porte-parole du climat de l'ONG Greenpeace. On va parler d'un tout autre sujet dans quelques instants, sujet peut-être plus léger. Halloween, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
On va essayer de faire un clown tueur, voilà. J'ai acheté un masque et une perruque, on va voir, essayer de modifier tout ça un petit peu.
Les enfants font le tour de la rue, de toutes les maisons pour les fameuses traditions, les bonbons où on sort. On joue le jeu à fond et ils aiment ça autant que nous.
En vampire, parce que ça fait peur et moi j'ai envie de me déguiser en quelque chose qui fait peur.
On a la chance d'avoir une maison, un chalet au milieu d'une forêt, donc on sera bien dans l'ambiance. C'est une soirée évidemment déguisée, donc ça va être bien.
Ses parents et ses enfants font partie des rares Français qui s'apprêtent à fêter Halloween. 2 sur 10 seulement cette année, si l'on en croit un sondage publié par l'Institut YouGov cette semaine. Alors comment l'expliquer ? Pourquoi cette fête ne prend pas ici en France ? On en parle avec vous, Damien Leguet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans RTL Midi. Vous êtes philosophe, spécialiste du funéraire et auteur d'un livre, du livre qui s'appelle « La France cachée d'Halloween » paru aux éditions du Cerf, c'était au début des années 2000. La face cachée, oui, pardon. Oui, j'ai dit la France, non, la face cachée d'Halloween, pardon. 2 Français sur 10 seulement, on aurait pu faire la France cachée d'Halloween, c'est un autre sujet. Deux Français sur dix qui vont fêter Halloween dimanche, ça vous étonne ou non? Ça vous surprend pas que ça prenne pas ici?
Ah ben non, ça m'étonne pas parce que je vois ça depuis plusieurs années, parce que comme effectivement je suis un peu le spécialiste de la question, je vois ça depuis plusieurs années, ça perd progressivement, si vous voulez, de son importance. Ça a été lancé par les médias il y a plus de 20 ans, considérant qu'il fallait absolument le faire, etc. Mais je crois que le côté négatif, si vous voulez, de la fête d'Halloween apparaît de plus en plus aux Français. D'une part, c'est une fête commerciale. Deuxièmement, c'est une fête gore. Troisièmement, ce n'est pas une fête des familles, mais c'est une fête qui est là pour alimenter, si vous voulez, la peur. Et je pense qu'en ce moment, les Français ont suffisamment peur et les enfants ont suffisamment peur de tout et de tout ce qui se passe autour pour ne pas rajouter dans cette hystérisation de la peur, de l'angoisse, etc. Voilà.
Mais c'est sympa pourtant, on se déguise, on mange des bonbons et puis on aime tous jouer à se faire peur, non ?
Bah, si vous voulez, ça dépend l'âge que vous avez. Voilà. Oui, si vous êtes adulte comme nous le sommes, prendre ça au second degré, on peut le concevoir. Voilà.
Mais quand les enfants, ils adorent ça. Moi, j'ai un petit garçon de 6 ans qui n'a qu'une envie, c'est de fêter Halloween.
Je suis ravi pour lui. Simplement, je considère que malheureusement, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas tellement s'amuser. Et la mort est un sujet sur lequel on ne peut pas tellement s'amuser. Pour continuer, si vous voulez, dans ces mascarades, dans ces blagues, dans cette fête qui n'en est pas une. Hein. Vous avez, pour ceux qui aiment Paris, qui considèrent qu'effectivement Paris est de plus en plus moche, et ben vous avez ce soir, vous avez le choix entre... Pour bientôt, pour Halloween, le choix entre des fêtes avec les 900 vampires, le chalet de la mort, le bal des monstres de l'horreur, etc.
Mais tout ça est du second degré, monsieur Le Guay. Mais là où je vous rejoins, en revanche, c'est que c'est un business. Ça a été en fait lancé pour les télévisions, vous disiez les médias, pour animer un peu les soirées à cette période de l'année.
Bon, il y en a d'autres, des fêtes commerciales. Saint-Valentin, excusez-moi, c'est tout aussi commercial, non ?
Vous avez parfaitement raison, et même Noël, d'une certaine manière. Vous savez, à partir du 1er novembre, on va voir toutes les chaînes de télévision qui vont proposer des films sur Noël. C'est aussi une forme de business. Tout est business, on le sait bien aujourd'hui. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette tradition américaine, parce que c'est États-Unis, ça n'a pas pris en France. C'est ça qui est aussi intéressant, monsieur Le Guay.
Oui, parce que vous avez deux choses. La première, c'est qu'aux États-Unis, c'est une fête qui est beaucoup plus familiale et qui est beaucoup plus communautaire. Les États-Unis ont un sens de la communauté, c'est-à-dire de la proximité, qui est beaucoup plus forte que la nôtre. Et donc, effectivement, les enfants se promènent dans le village, dans le quartier, etc., pour animer, si vous voulez, cette vie de quartier. Bon. En France, on a tout de suite insisté sur l'horreur. Sur les vampires, sur les morts-vivants, sur les fantômes, sur quelque chose qui est un autre registre, qui est le registre, disons, du gore. Vous voyez Et ce registre du gore n'est pas du tout celui des États-Unis. Donc, effectivement, quand vous rajoutez quelque chose dans un autre univers, qui est un univers qui est celui plutôt des films d'horreur que de Blanche-Neige, bah forcément, à un moment donné, il y a une forme d'overdose, si vous voulez, de l'horreur, et les Français considèrent qu'il y a deux choses quand même à considérer en ce moment. Il y a ça, qui est une parodie, qui est une mascarade, et puis vous avez autre chose, et ça sera intéressant qu'on en parle un peu, c'est effectivement la fête de la Toussaint, c'est-à-dire ce grand moment qui est un peu malheureusement oublié par les médias, où 35 millions de Français, je répète bien 35 millions, c'est ce que les sondages disent, qui vont pendant cette semaine se recueillir sur la tombe de leurs ancêtres.
Et vous avez le sentiment que ce n'est pas traité par les médias ?
À très peu.
Parce que vous allez voir, lundi, je pense que dans tous les médias de France, il y aura des reportages de gens qui fleurissent des tombes, qui se souviennent. Il y aura des reportages sur le marché funéraire qui a évolué, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens se font incinérer. Moi, je n'ai pas ce sentiment.
Écoutez, moi, je ne sais pas ce qui va se passer lundi, mais je peux vous dire que depuis des années, je regarde attentivement ça, à part de parler des chrysanthèmes ou de savoir effectivement s'il y a des marchands qui vendent des fleurs ou pas des fleurs. Ce qui se passe à ce moment-là, qui est 35 millions, c'est le plus grand moment de rassemblement des Français sans que personne ne leur demande rien, et juste en apportant 20 millions de pots de fleurs et 5 millions de bouquets de fleurs. Donc c'est un moment qui suppose effectivement une transmission, le fait de lier les générations les unes avec les autres, de se recueillir, de continuer ce commerce que nous avons avec les morts et ceux qui nous ont précédés. Voilà. Donc là, il se passe quelque chose, si vous voulez. Oui. Et il se passe quelque chose, alors que dans la fête d'Halloween, on est là effectivement dans le deuxième, troisième, quatrième, cinquième degré. On est dans quelque chose qui effectivement est surréaliste d'un certain point de vue, qui amuse comme ça un peu les adultes, mais il me semble que je ne sais pas ce que ça apporte, si vous voulez, en termes de recueillement ou de considération sur la mort, etc., alors même que nous sommes dans un univers qui malheureusement est assez anxiogène.
Vous seriez plutôt pour la fête des morts très festive, comme on le voit dans certains pays, notamment d'Amérique du Sud, du coup ?
Alors, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, quand vous allez au Mexique, ou quand vous allez dans des pays comme ça, vous voyez bien que là, il y a une forme de cohabitation, vous voyez, de cohabitation
entre la vie et la mort.
des vivants et des morts. Il y a même des traditions où on déterre les morts. Il y a même des traditions où on apporte, si vous voulez, quelque chose aux morts pour manger avec eux, pour se réjouir avec eux, etc. Ouais. Ouais, donc cette cohabitation-là, qui est indispensable, même dans le psychisme des individus, elle ne se retrouve pas dans la fête d'Halloween et peut-être pas complètement non plus dans le mandat de Toussaint, même si effectivement cette fidélité des Français à l'égard de la fête de la Toussaint, du jour des morts, de ce commerce avec ceux qui ne sont plus là, se continue, se propage, se maintient d'année en année.
Et on va le poursuivre la discussion, Halloween ou Fête des Morts ou Toussaint, au 32-10 avec les auditeurs. C'est vrai que c'est un moment particulier pour se recueillir. Donc vous pourrez nous appeler dans une seconde.
RTL Midi. Pour écouter RTL sur votre enceinte connectée, dites « Ok Google, lance le live RTL » ou « Alexa, lance RTL ». RTL, partout, tout le temps.